On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
J'ai la chance d'avoir des fans présents depuis mes débuts et qui m'ont suivi à chaque nouveau livre. Il y a vraiment un truc que j'adore, c'est quand quelqu'un me dit une de vos recettes est devenue incontournable pour moi. On la fait une fois par semaine ou au moins une fois par mois.
For me, this is the most gratifying thing about what I do because if it becomes part of someone's repertoire, it's there forever.
C'est ce qu'il y a de plus gratifiant dans mon travail, ce moment où une recette rejoint le répertoire de quelqu'un parce qu'elle y est pour toujours.
Si vous croquez des falafels au restaurant, si vous pratiquez le houmous à la maison, si vous saupoudrez vos légumes de graines de grenade ou votre salade de sumac, vous avez peut-être été ensorcelé par l'esprit Ottolenghi, Yotam Ottolenghi, l'idole des foodies. Ce chef israélo-britannique possède des restaurants à succès qui portent son nom à Londres. Il a écrit Jérusalem, Plenty, Plenty More, Simple. Ses livres ont tous été des best-sellers dans le monde et en France. La recette du succès, peut-être sa façon culottée et décomplexée de jumeler des influences levantines, méditerranéennes, arabes, avec des techniques à la portée de tous, des dressages généreux et des goûts puissants. À l'occasion de la parution en France de Nopi, son 7e opus chez Hachette Cuisine, nous avons eu la chance de décrocher la seule interview qu'Ottolenghi a accordée à des journalistes français. Nous sommes partis, Elvira, à Londres pour cet entretien. Elvira, vous êtes l'une des premières fans d'Ottolenghi.
Ouais, et moi j'aime particulièrement sa façon de jouer avec les légumes sans hésiter à monter les cuissons très très fort.
Avec nous également, une cuisinière tombée dans la marmite d'Ottolenghi, Ella Aflalo, bonjour.
Bonjour tous.
Vous nous venez de Marseille où vous tenez depuis le printemps dernier Yima, une petite table qui connaît un succès énorme dans le quartier de Noailles. Vous allez nous raconter comment Ottolenghi a été pour vous une véritable révélation. Qu'est-ce qu'on boit avec cette cuisine méditerranéenne? Notre chroniqueur vin a peut-être la solution. Bonjour Dominique Hutin.
Bonjour. Ben voilà, je vais vous emmener moi en voyage puisqu'on va porter l'éclairage sur un pan plutôt méconnu de la viticulture mondiale. Il s'agit du Moyen-Orient avec Israël évidemment, puis aussi le Liban avec sa grande tradition, la Syrie et accrochez-vous, même la Palestine. Bref, j'espère que vos passeports sont à jour, les amis.
Vin levantin dans nos verres. Laurent Thomas réalise cette émission avec Charles Leca, Nadia Chougui pour la préparation, Djoubaka pour la programmation musicale, Frédéric Kérou pour la prise de son à Londres, Anna Maréchal pour la traduction et l'ami Franck Madvon pour la voix française. Des recettes ensoleillées de Yotam Ottolenghi et de Ella Aflalo sont à retrouver avec le podcast de l'émission sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Je suis Yotam Ottolenghi, rendez-vous dans On va déguster sur France Inter.
C'était au mois de septembre, par une journée ensoleillée à Londres, vous vous souvenez Elvira?
Oui, ça existe hein, les journées ensoleillées à Londres en fait.
Rendez-vous était pris au dernier étage de Penguin Random House, la maison d'édition de Yotam Ottolenghi. Ces jours-ci, sort en France chez Hachette Cuisine son dernier livre de recettes intitulé...
Nopi.
Nopi comme, vous connaissez Elvira, comme son restaurant.
Comme son restaurant, absolument, ouais.
La table qu'il a ouverte en 2011.
Piccadilly Circus. Ouais.
Exactement, avec un chef cuisinier, Ramaël Scully, qui co-signe d'ailleurs cet opus. Chemise à fleurs, grand sourire, Yotam Ottolenghi arrive dans une grande salle de réunion où nous avions rendez-vous. Il dégaine immédiatement son arme de séduction, une recette surprise, assemblée en deux temps, trois mouvements.
I'm gonna make burrata.
Je vais vous préparer une burrata avec des pêches marinées, de l'anis étoilé et des graines de fenouil. C'est une très belle burrata, bien crémeuse. Je vais juste la placer au centre de cette assiette et puis je vais mettre trois magnifiques tranches de pêche. Ces tranches sont préalablement marinées dans un sirop parfumé à l'eau de rose. Mais vous pouvez mettre aussi de la fleur d'oranger. On ajoute l'anis étoilé, les graines de fenouil. Puis on récupère des graines de coriandre marinées dans une huile à la lavande. Avec un petit peu de miel aussi, on obtient quelque chose de sucré, parfumé, croquant. Je mets tout ça sur la burrata, c'est enrobant, et je finis avec quelques feuilles de basilic pourpre. Ce qui apporte un joli contraste de couleur.
Yotam, c'est vraiment très bon.
Thank you.
Délicieux, hein.
T'as vu les graines qui croquent sous la dent?
Ouais.
La texture de la burrata qui est extraordinaire. Oh. Le petit goût juste de lavande. An influence from Provence or...
Well, it could be. I mean, the lavender.
C'est possible. Hein.
Actually, you know what? I was in Corsica.
J'ai voyagé en Corse il y a quelques années pour une émission de télévision. Il y a beaucoup de lavande dans cette région.
With local honey.
J'en ai fait un gâteau avec du miel du maquis, vraiment exquis.
Honey from the maquis, you know, the bees.
On sent réellement tous les parfums des plantes sauvages que les abeilles ont butinées. C'était un gâteau au miel et aux abricots nappé de sirop de lavande. Un vrai délice.
This is a collaboration with Scully, who
Cette burrata est une collaboration avec Ramel Scully, le co-auteur de mon livre Nopi. Il faut que la burrata soit bonne,
so I love the fact that it's
mais c'est surtout l'usage des graines de coriandre qui est intéressant. Habituellement, cette épice est utilisée pour ses arômes. Alors qu'ici, les graines apportent de la texture. C'est vraiment surprenant parce que d'habitude, on utilise des noix pour le côté croquant.
Quand la burrata, ce fromage crémeux du sud de l'Italie, se marie avec la graine de coriandre, alors graine de coriandre entière, et l'huile de lavande, une recette extraite du nouveau livre d'Ottolenghi, Nopi.
Sauf que Yotam Ottolenghi nous l'a préparé effectivement avec de la pêche, et dans le livre, c'est une version plus hivernale qui comprend des tranches des quartiers d'orange sanguine, ce qui doit être assez génial aussi.
Ça vous fait envie, Ella, ou pas?
Ouais, c'est hyper intéressant comme approche.
La coriandre, vous l'utilisez?
Ouais, la graine de coriandre, je l'utilise un peu, je la fais toaster pour que tous les arômes ressortent correctement. Moi, je l'utilise par exemple en ce moment au restaurant sur un granola salé pour amener un petit peu de croquant. Et en effet, j'utilise cette graine de coriandre entière, mais vraiment à toaster avec une petite huile de noisette ou quelque chose qui va ramener encore un peu plus.
Et le granola salé, il va sur quoi?
Là, bon, c'est la fin de la saison, mais je le mets sur l'aubergine rôtie, tahinée, granola salée, quelques petites grenades, un peu de cranberries.
Voilà. Wow. Nopi, c'est donc le cookbook de son restaurant éponyme. C'est le livre qui sort ces jours-ci en France. Alors, il avait un peu dérouté ses fans anglais lors de sa sortie au Royaume-Uni parce que d'abord, un, le niveau technique est un peu plus relevé alors qu'Ottolenghi a bâti sa notoriété sur l'espèce de facilité décomplexante de sa cuisine. Et deuxio, son univers culinaire change un peu. La burrata, c'était dans la sphère méditerranéenne, mais ses influences traditionnelles, c'est-à-dire le Levant, la Méditerranée, se frottent cette fois-ci dans Nopi au goût et à l'histoire personnelle du chef avec lequel il a co-signé ce livre, Ramel Scully. Il est quand même né en Malaisie d'une mère sino-indienne et d'un père aux origines malaisienne et irlandaise. Il y a des ingrédients comme le miso, le tamarin, la fleur de kéfir, la feuille de pandame. Est-ce que, à votre avis, il vous fait une infidélité Ottolenghi que vous aimez beaucoup pour son univers méditerranéen?
Je crois pas, parce qu'au final, je pense que ce sera toujours Ottolenghi dans ses manières de cuire les légumes, dans ses manières d'assaisonner, d'allier différents produits de manière assez surprenante. Ce sera toujours lui. Donc je crois pas à une infidélité, je crois à encore plus de créativité, je dirais.
Très bien. Eh bien, revenons justement au livre fondateur. C'est Jérusalem, sorti en 2012 en Angleterre, traduit en français l'année suivante. Plus qu'un livre de cuisine, c'est une Bible de cuisine ou un Talmud ou un Coran qu'Ottolenghi a signé avec Sami Tamimi, un cuisinier palestinien qu'il a rencontré au fourneau d'un petit traiteur à Londres. Rapidement, Yotam Ottolenghi et Sami Tamimi sont devenus les meilleurs amis du monde et surtout des associés professionnellement. Ils montent ensemble en 2002 la première cantine qui porte le nom d'Ottolenghi dans le quartier de Notting Hills à Londres, rapidement suivi par trois autres adresses à succès. Et ensemble, les deux compères voyageront à Jérusalem pour faire un portrait en recette de la ville sainte en se rendant dans les familles juives, mais aussi dans les foyers palestiniens de Jérusalem-Est. Imaginez quand même un cuisinier israélien et un cuisinier palestinien
Italiens, tous deux de surcroît ouvertement homosexuels, ce livre a fait grincer quelques dents dans les milieux traditionnalistes ou intégristes. Mais l'écho du livre Jérusalem fut incroyable, et notamment en France. C'est le livre qu'il a vraiment fait connaître chez nous. Vous allez nous en parler dans un instant, le choc qu'a été pour vous le livre Jérusalem, et là à Flalou. Nous avons demandé à Yotam s'il avait été surpris par le succès de son livre en France, considéré comme le pays de la gastronomie très centré sur sa cuisine.
La France et l'Italie sont deux pays où je n'aurais jamais imaginé vendre des livres de cuisine. J'ai vendu des centaines de milliers d'exemplaires en Allemagne, aux Pays-Bas, encore plus au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie. Mais je ne pensais pas que le livre marcherait autant en France. J'ai fait l'école du Cordon Bleu à Londres il y a 20 ans et j'y ai étudié la cuisine française. Nous avons étudié la cuisine française sous toutes ses coutures. Et c'est seulement le dernier jour que nous avons abordé les cuisines du monde. La Chine, le Japon, l'Italie, la Hongrie, tout ça en un seul cours. Je n'imaginais pas un tel succès pour le livre en France, dans ce pays qui a offert au monde le langage de la cuisine. Vous avez de quoi être fier. J'ai été à Paris et j'ai pas mal voyagé en France ces deux dernières années. J'ai constaté que les choses bougeaient vraiment. La conception de la cuisine française évolue dans différents domaines, crée des interactions culturelles avec d'autres cuisines.
Jérusalem de Yotam et Sami Tamimi comme une tentative de réconciliation judéo-palestinienne par l'assiette. Et en même temps, on lui a posé la question, est-ce qu'on peut vraiment résoudre le conflit du Moyen-Orient avec du houmous ?
Bien évidemment, la cuisine n'a pas résolu les conflits du Moyen-Orient. Le livre que j'ai écrit avec Sami repose sur un paradoxe. Les peuples des deux côtés mangent presque la même chose. Mais ça n'a pas suffi à combler ce fossé. Rendez-vous compte que dans les quartiers juifs orthodoxes de Jérusalem, où les gens sortent très peu de chez eux, n'écoutent pas la radio, ne regardent pas la télévision, on mange le même houmous que dans les familles palestiniennes à 2 kilomètres de là. Ils ne se sont jamais rencontrés, ni même parlé. Et c'est triste de constater que la nourriture ne peut pas résoudre les conflits diplomatiques ou politiques. Ces personnes partagent la même cuisine et rien d'autre. Mais heureusement, parfois la cuisine est un parfait moyen d'engager une conversation. Je suis allé à la rencontre de divers habitants de Jérusalem pour une émission de la BBC. Je suis allé chez une famille palestinienne, rencontrée dans une boulangerie. Ce n'était absolument pas prévu dans le tournage. J'avais simplement interrogé cette femme à propos de sa pâtisserie et elle m'avait spontanément invité chez elle. J'étais assez nerveux en me rendant dans sa maison de Jérusalem-Est, parce que j'ai honte de l'avouer, mais je n'avais jamais mis les pieds dans une maison palestinienne. Pour moi, c'était une zone de guerre. Ils avaient préparé tant de choses à manger. C'était fou, toute cette nourriture était fabuleusement belle. Et ça a tout naturellement brisé la glace. Nous nous sommes mis à discuter de nos amis, de nos familles, et elle s'est ouverte sur les difficultés de sa vie en zone occupée. La nourriture est la première chose qui s'est passée entre nous, et c'est ce qui a permis la conversation qui a suivi.
Jérusalem est devenu un livre symbole, universel, qui a même inspiré un morceau de musique au rappeur anglais Loyal Carner. Ottolenghi nous raconte l'anecdote.
Je ne connaissais pas Loyal Carner, pourtant c'est un rappeur britannique assez connu, mais je n'écoute pas de rap. Un jour, j'ai reçu un mail de sa part. Je m'appelle Loyal Carner, je suis chanteur et musicien, je fais du hip-hop. J'ai écrit une chanson intitulée Ottolenghi, et je voulais juste vous le dire. Loyal Carner est un mec hyper gentil, passionné de cuisine. Plus jeune, il a rencontré des difficultés d'apprentissage, et il a appris à se concentrer grâce à la cuisine. Un jour, alors qu'il feuilletait Jérusalem dans un train, une femme lui a demandé
«
C'est quelle Bible, ça ?» C'est vrai que les lettres dorées sur le livre peuvent lui donner des airs de Talmud ou d'ouvrage religieux. Cette anecdote lui a donné envie d'en faire une chanson.
It was very exciting for my team.
Mon équipe était super emballée parce qu'ils sont tous plus jeunes que moi. Lloyd m'a même proposé de faire un caméo dans le clip et j'ai accepté. Je pense qu'on me voit 5 secondes dans la vidéo.
I was sat up on the train, staring out the window at the rain. I heard this little lady must have felt the pain. Ask her mum if the blazing sun will ever shine again. I felt ashamed, feel the same, not a mother though. Nah, started to laugh, got a son involved. I mentioned the past like a running joke and told her without all the rain, there's no stunning growth. Close, to everything and nothing. Picture past the honeymoon and bluffing. Where the wooden spoon is only cuffing. Short of the discussion, but the roots can't maneuver out of nothing. I've been suffering these dreamy days, remedying lust. Don't hold any memories of us. Rather hold you every day until the memories are dust. Yo, we only caught the train, cause you know I hate the bus. Never get enough.
Born and raised. Made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday.
They ask about the Bible I was reading. Told them that the title was misleading. Labeled it Jerusalem, but really it's for cooking Middle East. And I could see the mind was changing with the seasons. Shaded for a reason. They would start decreasing. Leaving like the orange in the evening. It was creeping through the clouds, but now I'm proud to see the images releasing. I just wish the little lady could have seen them, but she was dreaming. Reckon she's standing with her mum, second to her look. Mother, here's the sun. Rooted in the moment till the memories are done. So I sit and start to wonder on the woman she'll become. Wonder if I had a son or a daughter, ones that I brought up never strong, never telling me to run, never trying to find a son, trying to get it done. Yo, I wonder if she'd ever be as clever as her mom. One.
Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday. Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday.
Le rappeur britannique Loyal Carner avec Jordan Rakey pour le titre Ottolenghi, sorti en 2018. Vous connaissiez ou pas cette chanson, Ella Aflalo ?
Pas du tout.
Hommage à Ottolenghi.
C'est rigolo, mais pas du tout.
On a indiqué le lien du clip sur franceinter.fr à la page On va déguster. Et là, vous êtes au fourneau du restaurant Yima. Nous avons eu la chance de nous attabler avec Elvira cet été, à des moments d'ailleurs assez différents. On est en plein quartier de Noailles à Marseille. Que signifie le nom Yima, le nom de votre restaurant ?
Alors Yima, c'est la contraction de Yema en kabyle qui veut dire maman, et Ima qui veut dire maman également en hébreu.
Ah donc c'est un mot, ouais, c'est un mot fusion, un mot ouais. Valise qui symbolise presque un peu la cuisine judéo-arabe que vous pratiquez. Alors, vous la pratiquez pas tout à fait à cause d'Ottolenghi, ou plutôt grâce à Ottolenghi, mais grâce à votre contexte familial, vos origines.
Oui, c'est exactement ça. Moi, je suis issue d'une famille juive. Papa qui est né au Maroc, maman qui a grandi en Israël. Et bon, moi, je suis de Nice, sud de la France, mais j'ai été bercée par tout ça, par les traditions, par les fêtes juives, par tous ces grands repas. Moi, c'est quelque chose vraiment qui m'a bercée, qui m'a donné envie de côtoyer le monde de la nourriture, quoi.
C'est ça. Et alors, il y a évidemment sur le comptoir de votre restaurant Yima quelques livres, et
oui,
surtout d'ailleurs les livres d'Ottolenghi, dont celui que vous nous avez apporté. Il a fait le voyage depuis Marseille.
Il est en très mauvais état.
Il est dégoûtant.
C'est un peu le livre
servi peut-être.
Le livre culte qui a fait connaître Ottolenghi en France et qui vous a été vraiment un choc. Comment vous avez rencontré ce livre ?
Eh ben, c'est une histoire assez rigolote. Ma mère est allée en week-end à Londres. il y a longtemps, à la sortie du livre. En 2012, elle va à Londres, elle décide d'aller manger chez lui pour la première fois. Là, elle a un énorme coup de cœur. À cette époque-là, j'allais entamer ma première année d'école de cuisine. Et elle me ramène ce bouquin. Donc, c'est un bouquin qui est écrit en anglais, qui sortait à peine là-bas. Et c'est mon premier vrai bouquin de cuisine. C'est un bon souvenir. Donc, voilà, il a un petit peu vécu.
Bon, vous parliez anglais au moins à l'époque ?
Oui.
Et vous avez pratiqué bon nombre de recettes. Ça vous a libéré en quelque sorte. C'était d'abord une cuisine, j'imagine, qui parlait évidemment à vos souvenirs d'enfance, qui faisait écho à tout ce que vous avez vécu culinairement.
C'est exactement
avec
ça.
Avec votre papa, votre maman, qu'est-ce que vous mangiez à la maison ?
Ben, on mangeait de... C'était ma mère qui cuisinait. Puis le week-end, plutôt ma grand-mère. Et on mangeait plutôt des plats traditionnels marocains. Ma mère, plus une fusion entre le français et l'israélien. Et oui, c'est une cuisine, la cuisine d'Otolenghi, c'est une cuisine qu'elle-même adore faire, les poulets confits, les olives, les légumes crus, c'est quelque chose qu'elle aussi sait très bien faire.
Alors quand je vous ai lancé un défi, ça a été en fait un piège, je vous ai demandé d'essayer de nous extraire de ce livre Jérusalem de Yotam Ottolenghi et Sami Tamimi, la recette un peu culte que vous avez l'habitude de faire, vous m'avez répondu, mais je l'ai fait toute. Il a fallu en choisir une.
Ouais, il a fallu en choisir une et j'ai choisi la salade de courge rôtie, oignon et trina. Wow. J'ai choisi celle-ci parce que c'est la première recette que j'ai faite. Quand j'ai ouvert le bouquin, j'ai regardé, on était sur les saisons de la courge et c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai dit, ça a l'air trop cool, la courge, tahiné, tout ça. Ouais.
Manger avec ses yeux prend tout son sens, là.
Il a raison, Dominique Hutin, parce que ce saladier, là, pétaradant de couleurs, d'herbes fraîches.
C'est bordeaux, c'est violine,
on a envie
c'est
de
vert,
le manger,
c'est
ouais.
Magnifique. Ouais. Mais c'est vraiment une des caractéristiques de la cuisine d'Ottolenghi, c'est qu'elle est hyper joyeuse et colorée à l'œil.
C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est toujours plein de couleurs, ça claque, quoi.
C'est foisonnant.
Ouais, c'est ça. C'est une espèce. En hébreu, on dit c'est le balagan. C'est une espèce de balagan, mais un peu organisé, quoi.
La pagaille,
c'est un peu
le bordel,
la pagaille.
Hein. Oui, c'est, voilà, ça. C'est ça. Alors, ce joyeux foutoir qu'il y a dans ce magnifique saladier que vous nous avez apporté, je parle autant d'ailleurs du contenu que du contenant. Racontez-nous comment on s'y prend.
Alors, pour cette salade, franchement, c'est à la portée vraiment de tous. C'est très, très simple. Dans un premier temps, il faut cuire donc les légumes qui prennent le plus de temps à cuire, donc la courge et l'oignon. Moi, là, j'ai pris du potimarron. Je l'ai juste lavé, je retire pas la peau parce que la peau du potimarron se mange. Je les ai coupés en cubes assez réguliers. Les oignons, je les ai juste coupés en deux. Je les ai posés donc contre le plat avec un petit peu d'huile d'olive. Les courges dedans, le four à 250. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques d'Ottolenghi. C'est, il va avoir tendance à pousser vraiment les cuissons, même à dire dans certaines recettes, il y a marqué brûler le légume, quoi. Concrètement. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai poussé la cuisson de la courge et de l'oignon quasiment à son max. Pas pour arriver à de la mer, mais pour avoir, ouais, quand même une légère amertume, mais qui est agréable.
Et vous laissez bien refroidir les légumes, évidemment.
Oui,
parce
oui,
que
oui.
La vocation de ces légumes, certes, ils ont été cuits longtemps, ils sont donc confits, mais ensuite, ils sont froids et assaisonnés.
C'est ça.
Comme
exactement,
une salade.
Exactement. Voilà. Là, on est un peu plus que, ouais, c'est quasiment froid. On est un peu à température. Je les ai cuits ce matin. Je les ai laissés tempérer.
Quand même l'allure d'une salade très fraîche.
Oui, mais on va avoir quand même la gourmandise du
rhum d'Alfort, non ?
C'est un appel du pied ou du palais.
Vous n'avez pas petit déjeuner, Dominique, c'est ça le
non,
problème ?
Non, voilà.
Oui, voilà. Bon, voilà. On va vous servir.
Ouais, je propose que...
Donc, il y a des herbes fraîches, il y a des pousses d'épinards.
Oui, pousses d'épinards, un petit peu de grenade fraîche, un petit peu de cerfeuil pour le côté anisé, et la pâte de sésame, la trina, que j'ai un petit peu retravaillée.
Ah, alors, là, vous allez vite. Enfin, trina, bon.
Tahiné, pardon.
Trina pour les juifs, tahiné pour les arabes. Il s'agit de cette pâte de sésame.
Ouais.
Qui est aussi l'un des ingrédients vraiment indispensables du placard d'Ottolenghi.
On la trouve partout maintenant, donc c'est ce qui est assez chouette. Je l'utilise pas pure parce qu'elle est quand même très âpre. Donc je la dilue avec un peu d'eau, de l'huile, un petit peu d'ail et du jus de citron. Le jus de citron va venir casser un peu l'amer de la courge. Je vais vous servir, je pense que ce sera la manière.
Alors, on a bien compris, pâte de sésame, eau, citron,
ail, huile d'olive, sel.
Et on goûte. Dominique Hutin, allez.
Oui, moi j'ai l'estomac à la place du cerveau, là, si on pouvait.
Et là, vous remettez une généreuse...
Oui.
On se rend compte que c'est une sauce qui est blanche, tout à fait crémeuse.
Oui.
Cette recette d'assaisonnement est absolument géniale. Il y a un côté noisté, très gourmand, presque un peu praliné, apporté par la trina ou tahiné. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Hutin ?
Ah oui, la bouche pleine, c'est malin. Effectivement, c'est très bon. Il y a des contrastes, il y a des petites amertumes qui sont apportées par la partie végétale aussi. Cet assemblage fonctionne plutôt... plutôt assez bien.
Bah, c'est juste magique,
jeu,
moi, je trouve.
Et de texture et, oui. Et de saveur, avec ce rebond sur l'amertume.
C'est absolument...
Et l'astringence de la grenade, non, mais c'est du pur Ottolenghi. C'est l'essence même de ce qu'est sa cuisine. Ça.
Et c'est le côté un peu addictif.
Ouais,
on y va, c'est bon, les goûts sont là. Ouais. C'est le côté magique avec Ottolenghi. On se dit que ça marche, on en parle à la machine à café avec ses amis. Ses tours de main deviennent effectivement contagieux. Ils arrivent dans beaucoup, beaucoup de foyers. On a demandé justement à Yotam Ottolenghi comment il expliquait cet effet, le succès de sa cuisine.
Je pense que c'est la conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, ma cuisine est très centrée sur les légumes. Et nous vivons une époque où les gens veulent de plus en plus manger des légumes, sans pour autant devenir végétariens. Ils souhaitent changer leur manière de manger, et notamment réduire leur consommation de viande. Avec mes associés, Sami Tamimi, Ramel Scully et mes autres collaborateurs, on mise tout sur les légumes, côté goût. On les travaille avec des herbes, des épices, des marinades, avec tout ce qu'on peut pour les faire chanter. Quand je suis arrivé en Angleterre il y a 20 ans, j'ai été choqué par ce que les gens faisaient aux légumes. Je les trouvais toujours surcuits. Lorsque ma belle-mère, qui était irlandaise, la mère de mon mari, préparait des brocolis, elle les faisait juste bouillir 20 minutes. Il ne faut pas les traiter comme ça, c'est un péché. Trop souvent en Europe et ailleurs dans le monde, on surcuit les légumes. Ensuite, on les met sur le côté de l'assiette. C'est un triste accompagnement. Ils font juste de la figuration. Mais si vous accordez de l'attention aux légumes, de l'amour et du temps, vous pouvez faire des merveilles. Et en réalité, il est plus difficile de rendre savoureux des légumes qu'un morceau de viande de grande qualité. Les légumes sont pleins de ressources. On peut faire tellement plus de choses avec un chou-fleur qu'avec un filet de bœuf, cru, en salade, frit. On peut le faire dans un ragoût. Il peut absorber tous les goûts d'un bouillon. Et encore, je n'ai pas cité la moitié des trucs qu'on peut faire avec un chou-fleur.
Avec Ottolenghi, le chou-fleur retrouve des couleurs. C'est vrai que le chou-fleur en France, bon, on peut citer évidemment la crème du Barry, hein. Très très bien pour sa blancheur immaculée, pour ses goûts tout à fait délicats.
Le gratin de chou-fleur à la béchamel.
Mais c'est pas mal aussi.
Mais c'est pas mal aussi.
Mais c'est une autre histoire.
C'est toujours un peu
pas le même exotisme.
Non.
Comment Ella Aflalo cuisine le chou-fleur?
Alors moi, c'est rigolo, là, sur la nouvelle carte, on fait une espèce de dip avec du chou-fleur brûlé, mixé, et monté avec un petit peu d'huile d'argan et de vanille. Et à côté, c'est un petit peu le côté régressif, j'accompagne ça de petits palmiers, comme les palmiers de boulangerie, mais aux attards, pour venir un peu tremper le tout.
Pas mal,
donc,
non?
Ouais, en ce moment, on est sur
bon,
ça.
Je crois qu'on va être obligé de retourner à Marseille, ça c'est une évidence. Vous savez que la première personne qui m'a parlé d'Ottolenghi, on était dans les années 2005-2008, elle m'a même un peu... Elle a
la
un
pression.
Peu lourdement insisté sur le phénomène en me disant non mais si il faut que tu ailles à Londres rien que pour ça. Et ben c'est Elvira Masson qui effectivement a connu bien avant son succès en France les recettes, les restaurants, les livres de Yotam Ottolenghi. Et du coup on a tous quelque chose en nous d'Ottolenghi, n'est-ce pas Elvira?
On va déguster sur France Inter.
Plein de choses, même. Moi, j'ai plein de choses d'Ottolenghi. Il m'a complètement libérée. Ce qu'on entendait dans le petit son, c'est que c'est la place prépondérante qu'il accorde aux légumes. Les légumes font pas de la figuration, ça, c'est clair. Avec lui, les légumes deviennent colorés, ludiques, désirables, sexy presque. Mm-hmm. Pour qualifier son terrain de jeu et ses saveurs, il emploie un mot anglais qui est un peu compliqué à traduire en français, qui est le mot sharp. Sharp, ça veut dire affûté, ça veut dire... C'est comme ça, quoi. C'est un peu... C'est vif, quoi. Ça se traduit concrètement par la présence du fumet, de l'épice, du piment. Et c'est aussi dans le mode de cuisson, c'est-à-dire que les légumes touchent très peu l'eau. Je pense que il a été effectivement traumatisé par des expériences de légumes bouillis chez sa belle-mère. Le légume est vraiment confit, rôti au four. La cuisson peut démarrer très très chaud, comme vous le disiez là. Il peut même s'amuser à brûler des choses. C'est vraiment ce qui est très décomplexant quand on ne sait pas forcément super bien cuisiné.
Et ça lui a valu d'ailleurs quelques reproches de chefs français qui, du haut de leur toque, disaient « Oh là là, ils maltraitent les légumes !»
Et puis ça, que ça manque un peu de finesse, que ça manque de raffinement. Clairement, la cuisine Ottolenghi n'est pas une cuisine qui se définit par son raffinement, par sa finesse.
C'est une comfort food, on pourrait dire.
Oui, mais ça serait la réduire à quelque chose d'un peu trop enfantin. Là, elle vous prend parfois un peu par surprise aussi. Donc oui, il peut brûler un chou-fleur, il peut brûler une aubergine.
C'est une rusticité de bon aloi.
Oui, c'est ça, voilà.
Mais ça permet beaucoup d'équilibre,
ça permet beaucoup. C'est très équilibré. Oui, oui, mais c'est pas une cuisine régressive. Elle est plus intéressante que ça. Il crame un citron sur la flamme, on rôtit les aubergines entières directement sur le gaz. Effectivement, c'est libérateur et jouissif. Vous-même, François Régis, vous pratiquez quelque chose?
Oui, bah ça c'est dans Jérusalem, je crois, des petits bouquets de brocolis. Mmh. Alors évidemment, les brocolis, on peut, comme en Angleterre, dans les familles anglaises, le faire bouillir pendant 20 minutes et il est surcuit, il est tout marronasse. Et là, l'idée, c'est de les faire rôtir avec éventuellement un petit fond d'eau, mais c'est vraiment facultatif, beaucoup, beaucoup d'ail et du piment. Mmh. Et on se retrouve avec un brocoli presque caramélisé et qui, du coup, lâche ses sucs et son goût.
C'est vraiment du caractère. Il y a une autre chose que j'ai apprise d'Ottolenghi, c'est qu'il appelle en anglais le one pot dish, le tray bake. Tray comme un plat qu'on met au four, pas un fait-tout, un plat plutôt plat. Bake, de passer au four. C'est le fait de mettre ensemble tous les ingrédients qui conviennent à la recette et de laisser cuire. C'est pas aussi imprécis qu'il y paraît, parce qu'en réalité, on démarre par 4-5 ingrédients. À mi-cuisson ou aux 3/4 de la cuisson, on rajoute la suite. Donc c'est pas de l'impro. Mais typiquement, il fait une recette que j'adore, moi, que j'avais découvert dans le Guardian, qui est un poulet en morceaux avec de l'orange, du piment, de l'ail, un peu de bouillon, du sirop d'érable, des graines de coriandre et du cumin. Et ça fait, voilà, un poulet orangé, pimenté, aillé, confit, hyper équilibré. Il fait aussi une one pot, tout ensemble, pâte bolognaise à la harissa, qui est délicieuse.
Wow.
Et puis côté sucré, moi, il m'a ouvert un champ des possibles invraisemblables. Ce sont tous les desserts à la semoule de blé.
Et oui.
À commencer par la basbousa, ce fameux gâteau de semoule dont il fait notamment une version à la pistache et à la rose, qui est ponché, comme on dit, dans un sirop. Il fait également le helbé, qui est un gâteau de semoule au fenugrec, et également, dans un genre un tout petit peu plus sec, les mahamoul, ces fameux biscuits de semoule aux noix et aux dattes. Ça, les gâteaux à la semoule, c'est merveille.
Car Ottolenghi, c'est aussi une affaire de sucré. On va le voir un peu plus tard dans l'émission avec Ella qui nous a préparé justement un très joli dessert oriental inspiré d'Ottolenghi. Merci beaucoup Elvira. L'immense mérite d'Ottolenghi est aussi d'avoir introduit au restaurant et dans de nombreux foyers des spécialités qu'on pourrait qualifier de familial, de privé, voire parfois d'ethnique, avec ce que ça peut comporter un peu de dimension péjorative. Elles étaient jusque-là assez peu connues et justement Ottolenghi les a mises dans la lumière. Il y a un exemple, c'est
shakshuka.
So, a dish like shakshuka that you
un plat comme la shakshuka dont vous me parlez, cette recette de poché dans une sauce tomate aux herbes et aux épices, est devenu un phénomène culinaire international. Mais elle est avant tout fondamentale dans les cuisines du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. En fait, la mettre dans un livre de cuisine, c'est lui offrir la visibilité qu'elle mérite. Je vois la cuisine comme un moyen de communiquer des idées. Il existe pléthore de plats délicieux dont vous n'avez simplement pas idée. Je suis peut-être un messager. J'aime élaborer des recettes, mais il ne s'agit pas de moi. Le bonheur réside dans le geste de servir les plats aux autres. C'est peut-être un peu cliché, mais le fait est que la nourriture est un langage universel. Tout le monde mange, c'est la base de notre survie. Tout le monde comprend le vocabulaire de la nourriture. On peut voyager dans le monde entier, échanger avec des personnes qui ont goûté une même recette et se comprendre sans pour autant parler la même langue.
La shakshuka comme un des éléments du langage universel de la cuisine de Yotam Ottolenghi, et cette shakshuka elle vous parle aussi puisqu'elle figure à la carte de votre restaurant marseillais. On insiste dessus parce que ça a été une de mes très très belles expériences estivales. La cuisine d'Ella Aflalo à Marseille.
Et magnifique shakshuka.
Je suis pas le seul d'ailleurs. Et magnifique shakshuka.
Qui arrive pour chacun dans un petit caclon individuel. C'est une merveille.
Mais alors c'est pas tout à fait la version d'Ottolenghi.
Non. Il y a une petite modification. Dans la shakshuka, il y a deux débats. Avec poivron ou sans poivron. Moi, je suis la team sans poivron.
C'est ça.
100% tomate et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épices. Et en fait, ce qui va faire, je pense, un petit peu la différence et la puissance aromatique de ma shakshuka à moi, c'est que je vais vraiment avoir tendance à faire toaster les épices et les oignons pendant longtemps avant de verser les tomates et vraiment de faire mijoter le tout. Après, je la fais cuire entre 3 et 5 heures, selon la quantité. Et après, bon, la petite fantaisie que je me suis permise, c'est les œufs. Bon, tradi, et par-dessus un petit peu de feta et une grosse poignée d'herbes fraîches, menthe, coriandre, aneth, persil, qui ramène vraiment un gros coup de frais quoi sur le dessus.
Mais à la base, vous tenez cette recette de votre mère.
Oui. Qu'il a fait, elle, avec des poivrons.
Ah, quand même. Oui, oui. Vous, c'est uniquement oui. Tomates, épices, oignons.
Je suis assumée.
Oui, c'est bien.
Moi, je l'ai toujours mangé avec des poivrons, mais je sais pas, j'ai toujours eu un petit peu du mal. C'était pas mon truc préféré. Et en fait, j'ai voulu faire une espèce de version vraiment que moi, j'adore, que je pourrais manger tous les jours, quoi.
Et elle est toujours à la carte?
Elle est là le week-end.
Vous allez avoir quelques auditeurs.
Oui, bon, on va
pour
faire
venir manger
chose.
Vos chakchoukas. Je peux vous l'assurer. Et la recette est en ligne sur franceinter.fr, à la page On va déguster. יש כאלה האומרים כי כל הספסלים שעל המדרכות נועדו לבטלנים ולנשים זקנות אך תחליט הספסלים הירוקים לדעתנו לפחות לעודד את כל האהבות הראשונות האוהבים המתנשקים על הספסל צפצפים על מבטי העוברים בדרך אוהבים המתנשקים על הספסל הספסל, הספסל מצייצים בכל חנות כל כך המון אני אוהב אותך Chanteuse israélienne Yael Naïm fait du métissage musical en allant piocher notamment dans le répertoire de Georges Brassens. C'est un peu comme Ottolenghi qui pratique du métissage culinaire. C'est toujours la même histoire. On va déguster, se met à la table du chef cuisinier israélo-britannique Yotam Ottolenghi avec Elvira Masson, Dominique Hutin qu'on va entendre dans un instant et notre invité, la chef de Yima à Marseille, Ella Aflalo. Rien que dans la bande dont on va déguster. Figurez-vous que toutes les filles qui cuisinent, en gros, il n'y a que les filles qui cuisinent, petit
c'est
coup
ça,
de gueule contre
de
les mecs, un peu flemmard, faut bien l'avouer, toutes les filles dont on va déguster ont piqué un tour de main, un ingrédient, dans le répertoire d'Ottolenghi. S'il y avait un seul truc à retenir de Yotam Ottolenghi, ce serait quoi? J'ai tendu le micro à notre libraire gourmande, Déborah Dupont.
Ottolenghi, pour moi, c'est surtout les petits toppings à base d'huile parfumée. C'est-à-dire qu'en fait, il utilise des herbes fraîches. Il les mixe avec de l'huile, avec des aromates, avec de l'ail, avec des choses comme ça. Et il l'utilise pour agrémenter des purées de pommes de terre, des légumes. Hier soir encore, j'ai fait une pomme au four. Et le petit topping, c'était du thon à l'huile mixé avec des câpres, de l'ail, du persil, un jaune d'œuf et de l'anchois. Et franchement, je peux vous dire que ça, sur une pomme de terre au four, ça dépote. Et c'est toute l'essence d'Ottolenghi. C'est ces petits trucs qui font que un banal légume, un plat, somme toute assez classique, il arrive à en faire un truc sublime.
Déborah Dupont évoquait en fait cet art d'assaisonner, de condimenter.
Oui, c'est, je pense que c'est un des traits de la cuisine de Ottolenghi. Tout ce qui est condiment, moi, ce qui me frappe beaucoup et que j'utilise, ça va être l'utilisation de fruits et de légumes dans les mêmes plats. Moi, c'est quelque chose vraiment qui me porte, qui m'a bercé. Et c'est là, dans la création des cartes, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup.
Très bien. Notre chroniqueuse Estherelle Payani est aussi fan d'Ottolenghi. Qu'a-t-elle en elle d'Ottolenghi?
Ottolenghi, il m'a appris à respecter la liste des ingrédients. Quelque chose que je suis incapable de faire, c'est suivre une recette. Un jour, découragée devant la longueur d'une vinaigrette, je crois que c'était sur des aubergines, et j'avais 8 épices sur les 12 demandées, je la fais, c'était bon. Puis la semaine d'après, je vais chez une amie, elle me sert le même plat. Je le goûte, il était 10 fois meilleur, ça m'a vraiment énervée. C'était quoi la différence? Eh bien, c'était simplement un peu de menthe séchée. Je n'en avais pas, je l'avais oublié, mais toute la profondeur de la recette tenez à cette petite pointe de menthe séchée. Depuis, je peux vous dire que j'ai toujours de la menthe séchée à portée de main et que quand je fais du Ottolenghi, eh bien ça m'apprend à exactement suivre cette fichue recette.
Yotam Ottolenghi a effectivement la réputation de rédiger ses recettes avec une précision quasiment obsessionnelle. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a marqué, Hélène Fallon?
Franchement, c'est incroyable. J'ai pas mal de bouquins de cuisine, on s'inspire tous un petit peu des autres, et j'ai tendance à suivre certaines recettes, moi, à les agrémenter. Mais ce qui est vraiment un marqueur chez lui, pour moi, c'est qu'il est très fidèle sur les pesées, sur la quantité, sur les assaisonnements. C'est vrai, quoi. C'est véridique. Même pour aller des fois dans ses boutiques à Londres, goûter des choses qui sont dans les bouquins, c'est fidèle, quoi. C'est assez dingue.
Oui, c'est aussi peut-être une des clés du succès. D'ailleurs, ses recettes sont assez longues.
Oui.
Il prend le temps d'expliquer. Il prend le temps d'évoquer certaines sensations, des possibilités de remplacement d'ingrédients, etc. Il est vraiment dans une démarche d'accompagnement du lecteur.
C'est vrai, comme si c'était votre maman qui avait un peu écrit le livre de cuisine. Il y a une espèce de petits tips, en fait, des petites indications. C'est assez agréable.
C'est ça, les recettes sont longues, très précises, bourrées d'ingrédients, mais c'est très facile. Il vous prend par la main.
Exactement.
Ce qui explique quand même son succès aussi.
Et qu'est-ce qu'on boit avec Ottolenghi? Je crois que la réponse se trouve sur ma droite, Dominique Hutin.
On va déguster sur France Inter.
Pour la première fois, on vous impose pas grand-chose, on vous impose pas beaucoup de sujets, Dominique, vous êtes assez libre dans cette émission. Mais là, on vous a dit, on vous a même passé une commande, trouvez-nous le vin, cher Dominique, pour accompagner les recettes d'Ottolenghi.
En retour, j'espère que vous allez être récompensé parce que je suis venu avec une forêt, on peut pas le dire autrement. Vous voyez le nombre de caps, de cimes qui s'élèvent dans le studio. Alors, j'ai des vins israéliens, j'ai des vins libanais, j'ai des vins, accrochez-vous, syriens, et on va même parler d'une autre chose un peu plus exotique, des vins palestiniens. Voilà. Donc, au final, qu'est-ce que c'est? C'est une invitation au voyage, évidemment, géographique. Mais moi, je voudrais en profiter aussi quand même pour faire une autre promesse de voyage. On va se téléporter avec ces vignes du Moyen-Orient dans une espèce de téléportation temporelle. Pourquoi? Parce que évoquer les vins du Moyen-Orient, ça emprunte autant à l'histoire qu'au présent, qui est en train aujourd'hui, de s'écrire et en Israël, et au Liban, et en Syrie, et donc, je le redis, en Palestine. Il y a 3 verres, 4 vins. Tout le monde a un petit peu son verre au moins à moitié plein. Je sais qu'il y a des jauges qui ont baissé, j'ai dû refaire les niveaux.
Ne cafetez pas.
Alors, dans l'ordre d'apparition à l'écran, on a du vin libanais, Vertical 33, un cinceau, ça c'est vous, François Régis. C'est un cinceau, c'est un cépage qu'on va trouver dans le sud de la France, on le connaît bien. C'est un 2017. On a deux vins israéliens, un chardonnay, et puis beaucoup plus exotique, un Gewürztraminer, tout à fait étonnant. Oui, je vois qu'Elvira ouvre de grands yeux. C'est aujourd'hui que ça se passe, les valeurs d'étonnement. Voilà, Yarden, un vin syrien.
On refait du vin en Syrie?
Alors, je parlais tout à l'heure d'histoire très longue. On n'a jamais arrêté de produire au Moyen-Orient du vin. Évidemment, les méandres de l'histoire ont fait que plus ou moins compliqué au quotidien. Mais on fait, oui, du vin en Syrie. En l'occurrence, c'est Bargilus. C'est un blanc de 2013. Alors, vous avez peut-être trouvé aussi d'autres accointances avec la France, parce que ce vin est fait avec des chardonnays et des sauvignons. Donc là, on est vraiment sur une extraction franco-française pour ce qui est de l'encépagement. Et puis, je l'ai dit, des vins palestiniens qui existent. Le problème, c'est que si je vous avais amené une bouteille pour qu'on la déguste ici, on aurait épuisé la moitié de la production nationale le temps d'une émission. Donc
les volumes sont confidentiels, c'est
ça ? Très confidentiels. Alors, pour autant, quand même, les références de tous ces vins, je ne vais pas les énumérer, ce serait trop long, mais les références de tous ces vins, vous allez trouver sur notre site, avec les sites internet, vous pouvez les commander à distance, et puis aussi un reportage d'un collègue qui s'appelle Guillaume Nicolas Brion, qui a rencontré les vignerons palestiniens, qui font vivre cette espèce de choses tout à fait exotiques. Alors, si vos passeports sont à jour, je vous propose qu'on embarque. Mais juste avant, quand même, je voudrais vous alerter sur un point. Si vous êtes français et que vous pensez qu'on a inventé le vin. J'aurais quand même vous apprendre qu'on fait là-bas du vin depuis plus de 3000 ans. Autant dire que Saint-Émilion n'était même pas l'état de projet à cette époque-là. Voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Moyen-Orient, comme la Géorgie ou l'Arménie d'ailleurs, bah c'est simplement l'un des berceaux du vin. Voilà. Et ils sont à ce point enracinés dans l'histoire qu'ils ont même alimenté la mythologie. Et il se trouve même des archéologues, il se trouve même des historiens qui se demandent si ce n'est pas le vin qui aurait amené à la création de la figure des dieux. Et pourquoi donc? Simplement parce que le vin peut amener une forme de rêve, une forme d'ivresse. Et bref, les dieux pourraient être une création de l'humain dans un instant de transe. Voilà. Alors on est dimanche, c'est jour de messe, donc je ne vais pas trancher la question, je ne vais pas l'épuiser. On va rester sur les considérations théoriques, mais voilà, on pose, c'est un point d'interrogation. Alors reste quand même une question. Le mélange des influences qu'on scande depuis tout à l'heure, tout ce qui est constitutif donc cette cuisine du Moyen-Orient, ces influences mêlées, est-ce que cette question vaut aussi pour le vin? Ben alors, on va le voir, il y a des similarités absolument qui dépassent les frontières, et ça j'insiste bien, qui dépassent les frontières contemporaines, mais pour autant tout n'est pas égal. Ça veut dire que la proximité géographique ne vaut pas égalité. On a des réalités très contrastées. Donc je l'ai dit, la Palestine c'est très embryonnaire, vous l'avez souligné Elvira, évidemment en Syrie on connaît les difficultés pour produire du vin. Et à contrario, le Liban et Israël, on a d'abord un grand nombre de domaines, et on trouve même des offres œnotouristiques qui sont extrêmement structurées, voilà. Et puis on a des phénomènes nouveaux dans ces deux pays-là. On a l'émergence de nouveaux domaines qui sont peut-être plus petitement dimensionnés par rapport aux historiques que l'on connaît, les Kefraya, les Musards, etc. Donc il y a une espèce de nouvel élan, si vous voulez. Et puis, ces gens vont inscrire les vins du Moyen-Orient dans le goût de l'époque. Jusqu'alors, on connaissait quand même une espèce de générosité, je parle sous votre contrôle, et là, une espèce de générosité dans les vins, hein, des vins quand même avec des registres.
Très extraits, très lourds, voilà. un peu lourds et ensoleillés, ouais.
Voilà, exactement. Et là, pour le coup, eh ben, on va essayer d'aller un petit peu à contre-pied de ces vins un peu chauds, un peu tanniques, pour migrer vers des vins qui sont plus légers. C'est le cas, par exemple, du rouge que je vous ai servi avec ce cinceau, bon. Vous voyez, c'est tout à fait digeste, c'est tout à fait aérien, c'est intéressant. Alors, cette chose-là, ce geste de vinification, bah, ça réclame quoi? Ça réclame que les vignes soient cultivées en altitude pour qu'on aille chercher la fraîcheur. Alors, pour mettre tout ça à plat, ce grand ensemble du Moyen-Orient, je me suis tourné vers un œnologue français qui intervient au Moyen-Orient. Et alors là, il a un, vraiment, je l'ai pas fait exprès. Il a un nom prédestiné, il s'appelle David Siri. Accessoirement. Il est vigneron lui-même dans le Minervois, au domaine Siri-Cataneo. Cataneo, voilà, c'est ça. Et il nous dresse ce panorama. Les vignes, en général, sont beaucoup plus précoces qu'en France. Ça veut dire que ça amène, par exemple, à récolter aux alentours du 1er août des Sauvignons. Le seul problème, c'est qu'au 1er août, on va récolter sous un soleil qui est un petit peu lourd, et donc ça ne favorise pas toujours la fraîcheur du vin. L'autre chose, c'est que, on parlait de cépages tout à l'heure, eh bien, les méandres de l'histoire ont fait que Israël et le Liban ont hérité de ces cépages français, le Chardonnay, le Merlot, le Cabernet, etc. Autre facteur commun à toutes ces régions, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pluie. Donc il n'y a pas beaucoup de mildiou. Donc quelques traitements l'oïdium aussi suffisent par le soufre très rapidement. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du Liban, David Siri, notre œnologue français, pense qu'on pourrait tout produire en bio. Et dernière génial. Chose, oui, voilà, il faut quand même se tourner vers ce pan de la Méditerranée qui est tout à fait inconnu. Et en termes de mouvement, puisque tout ça bouge, Israël engage une production de moins en moins typé européen, qui était un peu caricaturaux parfois. Le Liban réfléchit à une mise en place des appellations d'origine et en même temps engage un début de quête pour des cépages autochtones. Donc vous voyez, on prend large par rapport à l'histoire contemporaine. Et puis en Syrie où il y a toute une foule de vignobles qui, par la force des choses, ont été laissés en friche, on voit naître de nouveaux projets avec des grands potentiels de qualité. Pourquoi? Parce qu'on a des vignobles d'altitude. Donc vous l'aurez compris, au-delà des différences et des similarités de ces vignobles du Moyen-Orient, bah, toutes les contingences, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient historiques, qu'elles soient politiques, ne peuvent pas abriter d'autres histoires que celles d'hommes et de femmes qui dépassent le champ de l'ordinaire. Ça, c'est vraiment obligatoire. Et voilà pourquoi aussi le Moyen-Orient viticole se traduit forcément, au-delà du voyage, par un transport émotionnel. Et tout ça, c'est résumé par un très vieux proverbe que j'ai inventé ce matin, qui s'appelle « Petit vignoble, Moyen-Orient, mes grands cœurs ».
Ah, joli.
Merci beaucoup. Last but not least, on va retrouver notre ami Yota Motolenghi, que nous avons interviewé tous les deux ensemble, Elvira, à Londres, pour, allez, quelques dernières petites questions.
Ouais, on l'a soumis à un questionnaire des quatre saveurs. Si vous étiez l'acidité, l'amertume, le salé, le sucré, et on commence par l'acidité.
Pour l'acidité, je dirais le citron. Ce fruit est en couverture de mon livre Simple. Je pense que j'ai travaillé le citron de mille et une façons au fil des années. Rôti, confit, réduit, séché, en zeste, en jus. Et encore, je n'ai pas tout exploré. C'est un fruit aux possibilités infinies. Il a tant à offrir. Pour l'acidité, ce serait ça.
Bitterness.
L'amertume,
c'est une très bonne question. Je vous ai parlé des légumes racines que j'affectionne particulièrement, comme les navets et les rutabagas. Les navets offrent une amertume délicieuse. Si vous les cuisez lentement et longtemps, leur douceur se révèle et cohabite parfaitement avec leur amertume. C'est superbe. L'amertume seule n'est pas toujours bonne, mais associée au sucré, c'est génial. Le réfort aussi apporte une très belle amertume qui attaque un peu, mais qui fonctionne bien avec l'acidité.
Salt ?
Le salé. Je cuisine avec du sel, bien sûr. Mais j'adore tout ce qui touche à l'umami et à la fermentation. Le sel qui vient du miso, de la sauce soja ou des anchois, c'est un sel avec une valeur ajoutée. Parce que vous n'avez pas uniquement le sel. Il est accompagné de cette sapidité qui s'exprime plus tard grâce à la fermentation.
And you're very much into desserts and...
Yeah. On the sweet side, I would really like to just celebrate
sugar. Côté sucré, j'aimerais rendre hommage au sucre. Je lui dois bien ça. Il y a un tel désamour du sucre en ce moment, et pour de mauvaises raisons en plus. Le sucre, dans sa forme la plus pure, la plus naturelle, n'est ni bon ni mauvais, c'est juste un ingrédient. Nous avons tous peur du sucre pour la simple et bonne raison que nous avons sucré à tort et à travers. Nous en avons trop consommé, alors qu'il faut l'utiliser avec parcimonie. Lorsqu'on fait un gâteau, on ne fait pas des gâteaux à tous les repas. J'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Sweet, qui célèbre le sucre pour ce qu'il est. Je crois qu'il ne faut pas oublier que le sucre fait partie de notre culture. Ce n'est pas parce qu'il y a une mode anti-sucre qu'il faut s'en détourner totalement.
Et oui, le sucre, chez Ottolenghi, vous évoquiez évidemment ses créations, ses desserts à base de semoule notamment, tout à l'heure Elvira, de fleurs d'oranger, etc. Mais il y a bien d'autres recettes dans le répertoire d'Ottolenghi, n'est-ce pas, Ella Aflalo?
Oui, bon, c'est pas du tout approprié ce que je veux dire, mais c'est des desserts qui sont pas très sucrés.
Ouais,
au final, qui sont sur le fruit, sur les fromages blancs.
Ce que je mange,
les...
c'est pas du tout sucré.
Oui,
non,
pas du tout.
Non, non, absolument pas.
Absolument pas.
Non, mais c'est sucré.
Oui, c'est sucré. Là, pour le coup, j'ai choisi un truc un petit peu régressif, un peu sucré, mais j'adore.
C'est dingue.
Ouais, c'est bon. C'est un petit goût de levure qui est assez intéressant.
Là aussi, c'est dans le livre Jérusalem?
Ouais, celui-là, c'est dans le livre Jérusalem. Et pareil, en fait, j'ai voulu rester un petit peu dans la lignée de la salade de courge. C'est la première recette que j'ai faite. Tout le côté boulangerie m'intéresse énormément. Et je me suis dit que c'est génial qu'il aborde aussi ça d'une manière un peu tradie. Et puis, c'est hyper gourmand, quoi. Donc,
c'est une babka, mais qu'il appelle Kranz dans le livre.
Ouais, qu'il appelle Kranz.
Kranz qui veut dire normalement couronne. Donc, souvent,
ouais,
la babka est en forme de couronne quand
ça
s'appelle. Alors là, on a plutôt affaire à une espèce de grosse brioche en forme de cake.
C'est ça, parce que en fait, ouais, historiquement, la babka ou kranz cake était vraiment en forme de couronne, et là, on l'a remis dans un moule à pain, quoi, un moule à cake plus tradit.
Comment on s'y prend en un mot, sachant que la recette est en ligne sur franceinter.fr, mais c'est le principe, on va dire, d'une brioche, enfin d'une pâte à brioche, donc il s'agit quand même d'un gâteau levé.
Oui, c'est une brioche pâte levée avec une petite ganache chocolat, quelques noix de pécan roulées. On laisse pousser le tout, on fait cuire et c'est terminé.
Et c'est dingue.
On se régale.
L'espérance de vie de ce kranz cake est d'environ 27 secondes.
Est-ce que ça ne tient pas à la crème fraîche qui l'accompagne?
Ah oui,
du cotentin.
Là,
oui.
Là, non, attendez, c'est meurtrier là.
Oui, là c'est pas cool ce que j'ai fait.
Une crème normande crue.
Bien que je sois pas normande, il faut pas.
Il faut ce qu'il faut.
Il faut ce qu'il faut. Il faut pas oublier qu'on est en France, qu'on a aussi de produits quand même assez cool et que voilà, c'est pour la légèreté, on va dire.
Régal absolu. On va se quitter justement et bien sur les saveurs fabuleuse de cette babka bien régressive, bien grasse, bien dodue. Un vrai régal et on peut aller goûter tout ça. L'esprit d'Ottolenghi se trouve chez Ella Aflalo, mais Ella, elle utilise aussi évidemment et elle réexploite tous les souvenirs d'enfance, ses madeleines, les recettes de sa maman et ça donne la fusion d'une cuisine déjà fusion. C'est absolument passionnant. Ella Aflalo, votre restaurant Yima, 27 rue d'Aubagne dans le quartier Noailles à Marseille, c'est complet tout le temps.
Il faut venir.
Il faut venir, absolument. Enopi, c'est le 7e et nouveau livre de Yotam Ottolenghi, coécrit avec Ramaël Scully, en librairie chez Hachette Cuisine depuis mercredi dernier. Je prévois un joli succès à la clé également. Merci à Franck Madvon de la rédaction de France Inter, qui fut correspondant à Londres pendant plus de 5 ans et qui, pour la petite histoire, habitait non loin de Upper Street, juste à côté d'un restaurant au Tolenghi où il s'attablait régulièrement.
Quelle chance il a eu.
Forcément, Franck est devenu accro quand on lui a proposé de faire la voix française de Tolenghi. Bah, il a sauté de joie. Dimanche prochain, un tour du monde des recettes de poulet avec une cuisinière globe-trotteuse Mireille Sanchez. À dimanche prochain, si vous avez encore faim, et merci Yotam Ottolenghi.
Thank you. I absolutely loved it. Thank you.
Thank you very much.